Liban. Anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Hassan Salamé.
Épisode 4, 1982, l'invasion israélienne et la naissance du Hezbollah.
Il faut en finir avec la partie sud de Beyrouth. Il faut détruire ce qui doit l'être, puis nettoyer tranquillement. Nous n'avons pas affaire à une population libanaise, mais à des camps terroristes. Nous sommes intéressés à ce qu'ils s'en aillent. Les Libanais s'en chargeront, mais il faut préparer le terrain. Ariel Sharon, le 11 juillet 1982. Hassan Salamé, on poursuit notre conversation. J'ai vu un œil se lever quand j'ai cité Ariel Sharon. Pourquoi ?
Parce que j'ai envie que vous envoyiez cette citation à Bibi Netanyahou. Qu'on lui dise qu'il n'a rien inventé quand il dit « Nous devons tuer les terroristes et ensuite pousser les Libanais à s'occuper du reste ». C'est ce qu'il dit aujourd'hui, 40 ans plus tard. J'ai beaucoup de peine à dire qu'il n'a rien appris de ses prédécesseurs, et notamment d'Ariel Sharon, qui disait cela, on sait la suite.
Ariel Sharon, justement, on va parler du moment et de la suite. Ariel Sharon, ce n'est pas encore le premier ministre israélien à ce moment-là, hein, c'est le chef d'état-major, c'est lui qui va conduire cette opération dite paix en Galilée. Ariel Sharon, d'abord, qui est-il à ce moment-là, en 80?
Il est ministre de la Défense.
Voilà, ministre de la Défense.
Mais il a beaucoup de poids auprès du premier ministre de l'époque, Menachem Begin. Et qu'il mène par le bout du nez sur les affaires libanaises, où il a fait ses propres accords, d'abord et avant tout, avec le ministre américain de l'époque des Affaires étrangères, Alexander Haig, et ensuite avec les autorités, enfin les milices chrétiennes de Beyrouth, qui vont l'amener à annoncer paix en Galilée. On sait ce qu'il en est 40 ans plus tard. Les illusions des dirigeants n'ont pas de limite. Et ensuite, qui va l'amener petit à petit à traverser le Litani, la Wali, et à occuper Beyrouth. J'étais là. Donc, on a été encerclés à Beyrouth pendant plusieurs mois. Avant que Sharon ne réussisse déjà son objectif tactique, c'est-à-dire obliger l'OLP à quitter. Donc, à la fin d'août 1982, l'OLP, enraciné au Liban depuis plus de 10 ans, a dû quitter le Liban et se réfugier principalement dans plusieurs pays arabes, dont principalement Tunis.
Revenons sur la dimension peut-être militaire de cette opération paix en Galilée. C'est une puissance militaire de feu extraordinaire qu'Israël déploie à ce moment-là. En combien de temps est-ce qu'Israël prend le sud Liban et monte jusqu'à Beyrouth? Ça se fait très très rapidement, j'ai l'impression.
Très vite. Il y a eu deux vraies batailles. Voilà. La première bataille a duré quelques jours. Dans le sud de la Beka, entre l'armée syrienne déployée au Liban et l'armée israélienne. Et l'armée syrienne a réussi à interdire à Sharon de fermer la ligne Beyrouth-Damas. Et la deuxième guerre va être la guerre de Beyrouth. L'entrée des Israéliens est tellement massive au Liban sud qu'ils traversent le Liban sud en quelques jours et se retrouvent dans la banlieue de Beyrouth au cinquième jour de leur attaque pratiquement. Et là, ils vont encercler Beyrouth pendant 2 ou 3 mois, pendant lesquels les Palestiniens et leurs alliés locaux vont tenter de défendre la capitale. Mais très vite, une bonne partie de la population de Beyrouth va demander le retrait des Palestiniens et le retrait des Israéliens. Et c'est ce qui va finir par se faire sous médiation américaine à la fin d'août 1982.
C'était le but de guerre israélien ?
C'était le but de guerre israélien. Ce qui m'inquiète, c'est que le but de guerre israélien d'aujourd'hui est à peu près le même. Et qu'il faut apprendre que quelque chose, à force de répéter la même chose, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un remède à la solution.
On était en août 1982, tout va s'accélérer en septembre 1982, avec l'assassinat du président libanais Béchir Gemayel à Beyrouth, le 14 septembre. Pourquoi c'est un événement particulièrement important dans ce contexte-là et qui l'assassine ?
C'est probablement un opposant libanais pro-syrien qui l'a assassiné. C'était tué la pierre de touche de l'édifice qui était en construction à l'époque au Liban. Et donc, l'après de cette guerre a été pratiquement, définitivement ou très sérieusement entaché dès ce 14 septembre 1982, lorsque Béchir est tué. D'autant plus que de l'autre côté de la ville, il y avait un massacre en cours, celui de Sabra et Shatila, qui était le massacre des civils palestiniens restés dans les camps de Beyrouth, certes par des mains libanaises, mais sous les auspices de l'armée d'occupation israélienne. Les deux drames vont alourdir l'atmosphère du lendemain de cette invasion, sans compter l'invasion elle-même, puisque les Israéliens vont traîner les pieds au Liban et vont envenimer le mandat du frère de Bachir Gemayel, qui va le remplacer après son assassinat, Amin Gemayel, qui sera président du Liban entre 82 et 88.
Ce qu'on n'a peut-être pas dit encore, c'est que selon le pacte national, le président est chrétien et le premier ministre est un musulman.
Ainsi que le chef du Parlement.
Oui, il fallait le préciser là. Il faut quand même revenir sur l'alliance entre les phalanges chrétiennes et Israël. C'est une alliance contre nature ou pas? Et autre question, pourquoi est-ce que Sabra et Shatila est devenu dans la mémoire collective de la région aussi puissant?
Contre nature, je ne sais pas. Il n'y a rien de contre nature dans une région où beaucoup de choses sont contre nature.
Des intérêts communs, alors.
Mais il y a eu une convergence peut-être trop ambiguë pour être véritablement fructueuse entre les chrétiens libanais et Israël. Et en réalité, les chrétiens libanais se sont sentis floués par Israël lorsque le premier ministre israélien a pesé de tout son poids, du poids de son armée qui occupait à l'époque le Liban, sur Bachir Gemayel pour signer un accord de paix que Bachir savait était attentatoire à sa vie, si jamais il avait signé. Mais ce qui est sûr, c'est que les chrétiens libanais savaient qu'ils se mettaient encore plus en danger si jamais ils prenaient l'initiative de signer un accord de paix que le gouvernement Begin exigeait d'eux à cette époque-là.
Est-ce que la mémoire de Sabra et Shatila et de cette époque-là rend aujourd'hui impensable tout rapprochement entre les chrétiens libanais et Israël ?
Il y a un doute sur les intentions israéliennes chez la plupart des Libanais. Ce n'est pas le même doute chez chaque Libanais. Mais il y a un doute. Il y a le crédit des Israéliens a été tarni par cette alliance qui a mal tourné dès les premiers jours de l'occupation israélienne du Liban.
C'est à ce moment-là que le Hezbollah va voir le jour dans le sud du Liban.
Vous avez raison sur ce point. Vous avez raison sur le point de dire que dès le moment qu'il a été clair que l'OLP devait quitter le Liban, c'est-à-dire vers la mi-juillet 1982, en pleine invasion israélienne, qu'une partie des chiites du mouvement Amal, qui était le mouvement confessionnel chiite, se détache de la direction de ce mouvement, dont la position était ambiguë en ce qui concerne l'invasion israélienne, et prend une position militante, ce qui permet à cette faction minoritaire à l'époque de la communauté chiite, de se positionner comme alternative à l'OLP contre Israël dès le départ des Palestiniens à la fin d'août. Et en réalité, le départ des Palestiniens a tout de suite été comblé par cette faction d'Amal qui est devenue par la suite le Hezbollah, qui a commencé ses opérations contre l'armée israélienne dès le départ des Palestiniens.
Ça, c'est passionnant parce que, pour le coup, c'est une grille de lecture fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Précisons que c'est 3 ans après la révolution en Iran et les deux événements ne sont pas sans lien.
Ah non, non. La naissance du Hezbollah s'est faite sous les auspices de la garde révolutionnaire iranienne. C'est-à-dire qu'il y avait des Iraniens qui sont arrivés dans la ville de la Bekaa qui s'appelle Baalbek, qui ont occupé une caserne de l'armée libanaise et qui, à la mi-juillet 1982, ont été un peu les sages-femmes, si je pouvais ainsi m'exprimer, de la naissance du nouveau-né qui s'appelle le Hezbollah. Mmh. Oui, les Iraniens sont présents à la création du mouvement.
Et nous, si je peux dire nous les Occidentaux, on va payer un prix lourd. Dans ces années-là, les attentats contre les soldats français, les soldats américains. On a aussi, moi j'ai toute mon enfance, j'ai entendu dans le journal de 20h, les otages français au Liban, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et les autres.
Plusieurs étaient des amis personnels.
Et ils ont été enlevés par, alors pas le Hezbollah, mais par le djihad islamique, mais qui était très proche. On est en 1985.
Il n'était pas très proche. C'était un des instruments du Hezbollah.
Un des instruments du Hezbollah. Mais ça raconte aussi l'écho qu'a ce petit pays dans le reste du monde.
Bah oui, parce que c'était un peu le théâtre de poche du conflit israélo-palestinien. Il y a un grand théâtre qui est le conflit israélo-palestinien, dont le théâtre principal est fermé encore pour le moment dans une grande mesure, c'est la Cisjordanie,
oui.
Parce que c'est là qu'un État palestinien peut ou peut ne pas naître. Mais il y a des théâtres de poche, des théâtres de remplacement. Et le Liban a joué le rôle de ce théâtre de poche pendant très longtemps. Donc c'est au-delà de son importance propre que le Liban a été, contre sa volonté, dans une grande mesure,
instrumentalisé
pour être un théâtre de poche du conflit plus régional. Et très vite, on va le reconnaître avec les attaques du Hezbollah contre la présence américaine et contre la présence française au Liban, notamment en octobre 1983 où le Drakkar sera attaqué, mais également la position des Marines où 4 fois plus d'Américains seront tués, et aussi l'ambassade américaine qui sera tuée avec plusieurs dizaines de morts. Et ce qui indique que l'OLP non seulement a été remplacé,
oui.
Mais a été remplacé par un groupe, un, qui est plus anti-occidental idéologiquement que l'OLP ne l'a jamais été, et deuxièmement, que ce groupe a des soutiens régionaux sérieux, notamment auprès de la Syrie et de l'Iran à cette époque-là. Ce qui indique qu'il y a, s'il y a une leçon à tirer de cette région, c'est qu'il faut se méfier des succès tactiques dans cette région, parce qu'on peut avoir des ennemis encore plus radicaux que ceux qu'on a cru pouvoir défaire.
Attention au court terme. C'est dans ce contexte que vous allez vous-même jouer un rôle très important pour mettre fin à la guerre civile libanaise. 140 000 morts en 15 ans et l'accord de Taif en Arabie Saoudite en 1989. Quelles sont les grandes lignes de cet accord? En quoi mettent-ils fin à la guerre et font naître une paix assez fragile, ça sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode.
La vérité, c'est qu'il y a eu une concordance de temps sur cet accord de Taif. Au niveau local, il y avait une fatigue des milices, à la fois la fatigue des miliciens eux-mêmes, de jouer les miliciens, mais aussi la fatigue de la population civile, de leur, comment dirais-je, contrôle sur la rue et de leur rixe incessante. Il y avait aussi autre chose, et c'est que, pour la première fois, il y avait une vacance à la tête de l'État, et les pays arabes ont eu peur. Ils se sont réunis à Casablanca en mai 1989 et ils ont décidé de prendre ça en charge et très vite les grandes puissances les ont aidés. Mais plus important que tout, 1989 est l'année où le monde a basculé et où la compétition entre l'Occident et l'Union soviétique s'est calmée sur beaucoup de conflits, notamment sur le conflit libanais, qui a permis aux Libanais, à ce moment-là, de s'entendre entre eux à Taif. Certes, l'accord avait été cuisiné pendant des années par des intermédiaires de toutes sortes entre la Syrie, les Palestiniens, le Hezbollah et bien entendu les acteurs libanais, le président Gemayel à cette époque-là, mais il fallait le structurer et cette structuration a eu lieu à travers la Ligue des États arabes dans son sommet de Casablanca en mai 89 et son application pratique dans la réunion des députés libanais dans la ville saoudienne de Taïf en octobre 1989.
L'un des enjeux de l'accord, c'est le rôle du Hezbollah et le rôle de la Syrie.
Le rôle de la Syrie, surtout. Le rôle du Hezbollah n'est pas directement...
La normalisation du Hezbollah viendra quelques mois plus tard.
Ouais. Après. Mais ce qui est sûr, c'est que le rôle de la Syrie est défini dans le chapitre 4 de cet accord, qui est très clairement dessiné, et on va voir qu'il y a de la réticence syrienne à appliquer sa part. Et il faudra de la force pour le faire, et ce n'est que bien plus tard l'assassinat de Hariri qui fera bouger les choses. Mais ce qu'il y a dans cet accord, c'est quelque chose d'important quand même, qui a mis en place une nouvelle distribution des forces, une déprésidentialisation du système, ce qui l'a poussé à devenir un régime plus parlementaire, donc plus pluraliste, mais hélas, qui a glissé très vite pour devenir un régime d'assemblée, c'est-à-dire un régime où l'assemblée maîtrisait entièrement et en fait paralysait, pour ne pas dire davantage, le pouvoir exécutif. Mais ça, c'est l'accord de Taif qui a permis... Les miliciens n'étaient pas très contents de tout accord leur déplaisait parce que ça veut dire leur fin, mais ils ont fini par jouer le jeu. Ils se sont accordés à eux-mêmes une espèce d'amnistie générale et ont changé leur kaki de milicien en costume 3 pièces de nouveaux notables. Ils ont poussé du coude les notables traditionnels et ont pris leur place.
Dernière question de l'épisode. Ils ont, eux, des costumes 3 pièces, mais il y a encore des treillis syriens.
Il y a encore des treillis syriens jusqu'en 2005.
Et beaucoup.
C'est-à-dire, il y a eu un accord faustien, en réalité, entre le premier ministre de l'époque et les Syriens, M. Hariri, et Hafez al-Assad, le Syrien. C'est-à-dire que la Syrie s'occuperait des questions de sécurité, de politique étrangère et des questions militaires et sécuritaires.
Ce qui est fou, quand même, pour un État.
Et de l'autre côté, le premier ministre libanais s'occuperait de tout le reste, de l'éducation, de l'économie, des finances, de la Banque centrale, etc. Le problème, c'est que cet accord faustien est un accord qui était déséquilibré en ce sens que non seulement il mettait des limites à la souveraineté du Liban, mais de l'autre côté, permettait à celui qui disposait de la sécurité et de l'armée de traverser la ligne rouge et d'aller s'occuper du domaine économique ou éducationnel, etc., alors que l'inverse n'était pas vrai. Et lorsque Hariri essaiera de s'occuper du reste, il connaîtra le sort que l'on sait.
Justement, c'est l'objet du prochain épisode. 2005, l'assassinat de Rafik Hariri et la fin d'une paix fragile, celle des années 1990. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.